Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle voix de Guillaume. Une petite actu façon coulisses, un petit peu d'un réalisateur de podcast pour vous donner quelques éléments sur mon quotidien en ce moment. Écoutez, mon quotidien en ce moment, il est rythmé par une vie bien remplie. D'une part, des travaux. Dès que j'ai un petit peu de temps, je vais préparer la maison que nous avons achetée et qu'il faut remettre d'équerre, on va dire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de choses trop structurantes à faire, de style plomberie ou électricité, en tout cas pas trop d'électricité. Mais il y a quand même pas mal de petites choses à gérer et c'est vrai qu'au départ on pensait faire une partie des travaux et que une fois emménagé dedans on en ferait une autre bonne partie. Et on essaye finalement de concentrer le maximum de travaux avant d'emménager parce que je vous avoue que je vois pas trop une fois emménagé comment on pourrait faire ce qu'on est en train de faire dans certaines pièces. Donc on en est à la phase où on a commencé à tout bien vider, il reste un peu de papier peint à décoller. Au deuxième étage et au rez-de-chaussée. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, moi j'habite à Amiens, j'ai acheté une maison à Amiens qui est une amiénoise. Alors il y a des amiénoises en dehors d'Amiens, mais le principe c'est des maisons à l'époque d'ouvriers du Nord qui sont souvent assez étroites, toutes accolées les unes aux autres, qui n'ont pas forcément une surface complètement incroyable, mais qui sont toutes proches d'un centre-ville parce que du coup, comme elles prennent pas trop de place, la densité de population est importante, donc on se retrouve vite proche du centre-ville, ce qu'on cherchait nous de notre côté. Et donc par contre, elles sont assez hautes, il y a en général deux étages, ou plutôt il y a un étage plus des combles qui sont souvent aménagés, ce qui fait gagner évidemment beaucoup beaucoup de place. Et en fait, de très structurant sur cette maison, on a un changement de toiture. Là, j'ai déposé le permis de travaux à la mairie d'Amiens, il y a de ça quelques jours maintenant. Et il y a un délai de 2 mois parce que la maison est située dans un environnement où il y a un patrimoine classé aux monuments historiques. Et donc, ça dépend des architectes de bâtiments de France pour avoir les autorisations qui vont bien. Et il y a quelques petites contraintes sur l'aspect extérieur de ce qu'on va faire. Bon, voilà, c'est des choses qui m'occupent plutôt bien en ce moment. Je vous avoue que j'ai hâte que ce soit terminé, mais c'est quand même hyper intéressant de le découvrir, tout ça. Et en sachant évidemment que je réfléchis un petit peu à de la domotique, et en fait, je me rends compte à quel point c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aujourd'hui la domotique reste un truc un peu en marge, c'est que ça reste... Alors déjà, c'est coûteux par rapport à des équipements classiques. Et l'autre chose, et on pourrait argumenter sur le fait que derrière le coût, il y a des économies d'énergie, de l'optimisation. Oui, ok, enfin, ça compense quand même pas le prix d'installation avant un petit moment. Et la deuxième chose, c'est que ça va vous paraître bête, mais c'est pas simple. Je fais un petit clin d'œil à mes collègues de Tech Café Domotique. J'ai changé évidemment avec eux sur des choix d'équipement, en particulier sur des interrupteurs, parce que les interrupteurs actuellement méritent d'être changés, alors plus pour des raisons esthétiques, c'est pas un gros poste de dépense, et j'avoue que les choix précédents étaient très 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 critiquables, en tout cas de notre point de vue, les choix esthétiques. Et donc je me dis, quitte à m'équiper d'interrupteurs, pourquoi pas m'équiper tout de suite d'interrupteurs connectés. Et alors, il y a un truc assez bizarre, c'est que si vous regardez les interrupteurs dimmer là, de chez Philips Hue, c'est pas un format standard d'interrupteur. Alors Gaëtan, qui fait partie de l'équipe Tech Café Domotique, a fait une vidéo qui m'a envoyée, donc je vous la mettrai dans les liens de l'épisode, qui explique comment les adapter, mais elles ne sont pas à la même taille que les blocs interrupteurs électriques classiques. Donc il faut passer idéalement par une imprimante 3D. Alors je vous avoue que même moi qui ai une imprimante 3D, je serais même plutôt preneur d'acheter des caches. Alors peut-être que ça existe d'ailleurs, mais qui habillerait bien la prise en entier. Mais un truc vraiment bizarre, c'est que pourquoi les interrupteurs / télécommande, puisqu'en fait on peut les détacher, Philips Hue, ne sont pas sur un socle d'une taille des interrupteurs électriques standards. Ça, je comprends pas. Donc, c'est ce genre de petites choses un peu aberrantes qui fait que c'est pas simple et qui fait que les gens ne s'équipent pas forcément en domotique et qui font que même quand ils sont dans le cadre d'une construction ou d'une rénovation complète, n'installent pas des produits domotiques. C'est que ça reste, je trouve, compliqué. Les standards n'ont pas été repris et ça n'aide pas, quoi. Donc, je comprends pas. Moi, je m'imaginais avoir la possibilité de m'équiper d'interrupteurs Philips Hue qui soient de la même taille que les interrupteurs classiques qu'on pourrait trouver chez Leroy Merlin. Alors, il y a les produits Philips Hue chez Leroy Merlin, même s'ils ne sont pas tous. Mais je m'attendais à ce qu'ils soient à la bonne taille. Bon, déception. Donc, ça m'occupe beaucoup. Et en parallèle, je continue à faire avancer, évidemment, Tech Café, pas à la vitesse que je souhaiterais, bien entendu. Les petits éléments, c'est que ce soir on enregistre un épisode alors avec Kassim. On a des infos qui sont très smartphone, parce qu'en plus ce soir il y a l'événement de présentation du Samsung Galaxy Z Flip, qui est, je pense, le premier smartphone avec écran pliant qui est probablement viable avec un tarif raisonnable et avec la puissance de frappe d'un Samsung et peut-être avec l'absence de compromis. Alors, on a eu la pub qui a été diffusée dans des événements aux États-Unis. On l'a vu, elle a circulé sur les réseaux sociaux. Elle est déjà très enthousiasmante. Mais évidemment, l'événement va nous permettre d'en savoir un petit peu plus ce soir. Et on en parlera donc dans l'épisode de Tech Café avec Kassim. On a d'autres sujets aussi assez cool. Et j'ai aussi d'autres épisodes en préparation. Alors, c'est un peu plus frais là, c'est en train de se mettre en place. Mais pour la petite anecdote, j'ai été contacté par une des personnes sur Patreon qui soutient financièrement l'émission. Et je dois dire que Patreon, c'est vraiment le bon plan. En tout cas, les financements participatifs, c'est vraiment le bon plan parce que un, vous avez des personnes qui vous soutiennent financièrement. Deux, ces personnes vous soutiennent aussi humainement dans vos choix, au travers d'encouragement. Donc ça, c'est tout bénef. Et le troisième effet qui se coule, c'est que ce sont des personnes qui parfois sont proactives. Et là, j'ai de bonnes raisons de penser qu'on va avoir une série de thématiques à aborder via des épisodes hors série qui peuvent être très cool. Et je me réjouis de pouvoir les enregistrer et vous les diffuser, bien entendu. Un dernier point, j'ai été contacté pour Tech Café par une société qui m'a proposé un sponsoring qui n'est pas neutre financièrement sur la base des revenus qu'il y a habituellement en financement participatif. Très loin d'être neutre. Et qui chamboule un petit peu des questionnements que je ne me faisais pas jusque-là. C'est qu'évidemment, tant qu'on a un podcast qui a une audience, une affinité qui est la sienne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus important en termes d'audience, en même temps il y a une fidélité très forte de la part des auditeurs, en fait j'ai jamais eu trop à me poser de questions sur la publicité parce que pour moi, les bénéfices liés à de la pub n'étaient pas significatifs par rapport à ce qu'ils engageaient en termes d'image du podcast et en termes également de crédibilité. Parce qu'évidemment, quand on a un annonceur de type sponsoring dans un podcast, est-ce que cet acteur fait pas des choses dégueulasses? En fait, la question qu'on m'a posée dans Patreon quand j'ai commencé à poser la question et à partager le sujet avec les soutiens de Tech Café, c'est qu'ils m'ont dit, par exemple, compte tenu de ce qui s'est passé avec Avast, comment t'aurais réagi si Avast avait sponsorisé tes émissions et s'était retrouvé dans la situation de bad buzz qu'ils ont connue? Je vous laisse écouter les épisodes de Tech Café récents pour que vous en sachiez un petit peu plus. Et ça pose question. Alors c'est pas parce que ça pose question que j'ai pas de réponse, bien au contraire. Et je me dis, finalement, si ça avait été Avast, j'aurais aimé pouvoir les avoir en sponsor et pouvoir quand même traiter la news. Et ça, je pense que c'est des choses qui peuvent s'encadrer et s'anticiper au travers d'un contrat. Donc c'est pas sûr que ça se fasse avec l'annonceur qui m'a contacté. Si ça se fait, en tout cas, ça se fera, je pense, de manière assez cadrée. Je suis assez confiant vu l'annonceur qui m'a sollicité parce que je l'ai vu dans des dispositifs de sponsoring avec d'autres médias en ligne que je trouve être de qualité et ça me semble plutôt bien fait. Et je pense que ces médias n'auraient pas accepté cet acteur-là en termes de sponsoring si jamais ils n'avaient pas un peu de recul. Et puis moi, sur les premières recherches que j'ai faites, j'avoue que je suis assez... Je suis assez serein. Bon, voilà. En tout cas, ça se passe par des échanges par mail. Pour l'instant, il faudra qu'évidemment on puisse s'appeler à un moment donné. Mais il n'y a rien de concrétisé du tout. Mais du coup, je commence à me poser la question de la publicité. Je pensais que c'était qu'à partir d'une audience importante qu'on pouvait avoir un intérêt à dénaturer le format d'une émission, parce que ça la dénature un petit peu, il faut le reconnaître, avec de la publicité. Mais peut-être que je me trompe et qu'il faut que je fasse avancer mes réflexions et que bah, peut-être que capitaliste que nous sommes, on a besoin, si on veut générer des revenus, d'en passer par les supports publicitaires. Tout ça étant encadré de la manière la plus précise possible et surtout en faisant en sorte que les soutiens Patreon, les soutiens en financement participatif ne soient pas exposés à cette pub. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi, ce qui peut assez facilement gérer puisque Patreon gère un flux privé. Malheureusement, ce flux privé n'est pas utilisable pour ceux qui utilisent des applications type Google Podcast. Ça, c'est des choses qu'on m'a remontées sur Patreon. Alors, de manière générale, les soutiens sur Patreon sont tous très, très positifs. Soit ça ne les dérange pas d'avoir de la pub, soit ça les dérange pas d'avoir de la pub à condition d'avoir un flux où les épisodes ne sont pas un flux où les épisodes ne sont pas soumis à la publicité. Il y en a quelques-uns que ça dérangerait et je peux les comprendre. Donc c'est un arbitrage à faire. Il y en a vraiment pas beaucoup hein, que ça dérange, mais il y en a quelques-uns et je les remercie d'ailleurs de leur transparence à ce sujet-là. Donc je vais voir comment je m'organise. Et je vous tiendrai bien entendu au courant dans cet épisode, dans un futur épisode de La Voix de Guillaume, où évidemment, si jamais vous écoutez Tac Café, vous serez bien entendu averti en temps et en heure. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite bien évidemment une très 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 bonne journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de La Voix de Guillaume. Ciao.